Quatre passions, Loulipo, Nick Bostrom, c'est la règle de trois de Hervé Letellier. Les maths, le cinéma, la littérature et la politique égayent une enfance qu'il qualifie lui-même d'un peu cinglée. À 17 ans, Hervé Letellier décide de fuir son étrange famille. Plus tard, il écrira « Je suis fait de briques et de brocs, un enfant n'a parfois que le choix de la fuite ». Dans les années 70, il commence à écrire sous l'influence de Boris Vian, Romain Gary et Italo Calvino. Titulaire d'un DEA en mathématiques, il bifurque vers le journalisme. À l'âge de 27 ans, il publie chaque semaine une nouvelle dans l'événement du jeudi. Dès lors, ses romans, récits, recueils de nouvelles sont édités. Les titres de ses livres révèlent sa tournure d'esprit. Les amnésiques n'ont rien vécu d'inoubliable, Joconde sur votre indulgence ou encore Guerre et plaie. Esprit dont il fait également preuve à l'occasion des jeux de harangue organisés à l'écomusée d'Ingersheim en Alsace.
Je vais parler fort car c'est toujours de la bouche que la harangue sort.
La charte de Loulipo, ouvroir de littérature potentielle, a été fixée par Raymond Queneau en 1960. Nous appelons littérature potentielle la recherche de formes, de structures nouvelles et qui pourront être utilisées par les écrivains de la façon qui leur plaira.
Oui mon poème, c'est à propos d'un pommier. Car je l'aime, mon pommier.
Georges Perec faisait lui aussi partie de l'association et l'exemple le plus emblématique de cette expérience d'écriture sous contrainte reste La Disparition, roman entièrement rédigé sans aucune lettre E.
Alors, ce qui a été pour moi fascinant, c'est que une fois donnée cette contrainte, le livre est sorti, je dois dire, tout seul.
Hervé Letellier devient membre de Loulipo en 1992, puis président en 2019. Ses propres livres sont souvent oulipiens. Pour l'anomalie, Hervé Letellier est parti de l'hypothèse de simulation émise par le philosophe Nick Bostrom en 2002, hypothèse selon laquelle nous ferions tous partie d'un monde virtuel.
The simulation argument imposes a constraint on what you can coherently believe about the future and about our place in the world.
Avec ce nouveau roman, Sous contrainte, qui met en scène des personnages et leurs doubles, Hervé Letellier dit vouloir proposer au lecteur une expérience de pensée.
Je remonte votre livre, mais enfin, à moins d'arriver de Papouasie, tout le monde a vu cet ouvrage, ce roman, qui est votre dernier roman, Hervé Letellier, et donc le prix Goncourt. Vous êtes oulipien, vous êtes à Loulipo depuis 92, vous êtes président depuis 2019. Vous l'avez écrit sous contrainte, des contraintes que vous vous seriez auto-infligées. De façon physique,
oui,
bien
on
sûr.
S'impose des contraintes. C'est-à-dire que la contrainte n'est jamais un outil, c'est toujours un principe. Ouais. Donc ça ralentit en fait la contrainte. En l'occurrence ici, les contraintes sont relativement faibles. Ce sont des contraintes qui sont naturelles puisque sont des contraintes de genre, ce qui veut dire que chacun de mes personnages, tueur à gage, un couple en situation de rupture, un écrivain un peu spécial, sont toujours associés à
un genre littéraire.
Ouais. Donc le polar, évidemment, va pour le tueur à gage, etc. Et travailler avec des contraintes de nature langagière, c'est évidemment assez enrichissant pour la création, parce qu'on va, on va à chaque fois aider le lecteur à se retrouver de chapitre en chapitre, puisqu'il y a beaucoup de personnages, ce qui était aussi une volonté que j'avais, qui sont tressés les uns avec les autres. On va pouvoir l'aider comme ça à savoir à quel personnage il a affaire, à quel moment, rien que par les questions simplement de langage, de langue.
Vous aviez besoin de faire valider votre livre par un philosophe probabiliste, sachant que le livre ouvre des questions absolument folles, métaphysiques quasiment, puisque c'est l'histoire d'un avion qui atterrit à 3 mètres d'intervalle au même endroit avec les mêmes gens à l'intérieur. Et donc qui pose comme hypothèse que peut-être nous vivons dans une réalité qui est simulée.
C'est une hypothèse.
Vous n'aviez pas confiance en vous, en votre
théorie ? C'est-à-dire qu'en fait, c'est sa théorie à lui, je ne voulais pas la déformer, je voulais que d'une certaine manière, le livre illustre une question qui est une question incroyablement vertigineuse, qui est l'idée que nous ne serions pas tout à fait des êtres vivants biologiques, mais des êtres...
Des programmes,
enfin pas forcément des algorithmes, peut-être des choses plus compliquées que des algorithmes, mais en tout cas des êtres dont la réalité matérielle n'est pas tout à fait tangible. Et c'est une hypothèse qui n'est pas mauvaise. En scientifique américaine, il y a assez peu de temps, l'hypothèse qu'on soit biologique est estimée à 52-53%, ce qui laisse quand même 47% de chances qu'on ne soit pas biologique.
Ça va ? Tout le monde va bien sur le plateau ? Mais en même temps, alors, j'existe. Mais oui, car je me pince. C'est ce que dit un de vos personnages, Philomène. Il dit, mais j'existe puisque je me pince.
Oui, mais ça ne veut rien dire, puisque par définition, les capteurs peuvent très bien simuler la douleur dans un système parfaitement
absolument
bien organisé.
Ultra sophistiqué. Une question, Hervé Le Tellier. Vous êtes fasciné par le double, puisqu'il y a des doubles, oui. Comme des, qui s'enchassent les uns dans les autres. Je crois que vous avez découvert la littérature, pas la littérature, mais vous aviez une passion pour Romain Gary, qui lui-même avait une relation très névrotique et fascinante avec le double, puisqu'il a créé Émile Ajar, vous aviez lu son prix Goncourt en 75, je crois que vous aviez 18 ans. Le double a été un piège mortel d'une certaine manière pour lui. Ça vient de là, ça vient du binôme Ajar-Gary, cette fascination pour le double ?
Je ne sais pas. Je pense que le double est une question qu'on se pose tout le temps lorsqu'on s'observe. Ce qui est intéressant chez le double, évidemment, c'est la cruauté avec laquelle on peut interagir. Ce que je voulais avoir, c'était des personnages qui s'observaient eux-mêmes sans aucune aménité, sans aucune douceur, et qui se détestaient ou acceptaient de collaborer. Mais il n'y a pas d'indifférence face à soi. Et souvent, lorsqu'on est face à soi dans le réel, on s'apprivoise le matin quand on se rase, on se regarde avec plutôt, pas forcément de la tendresse, mais enfin, en tout cas, on essaye au moins d'apprivoiser son propre visage. Lorsqu'on est confronté à soi, vu de loin, et qu'on s'observe avec le réalisme qu'impose la distance, il y a une sorte de fragilité qu'on perçoit chez nous et qu'on ne pourrait pas percevoir autrement. Donc c'était cette idée de la confrontation qui m'intéressait, la confrontation à soi-même vraiment.
Il y a du tressage entre tous les personnages de votre roman. Forcément, quand on entend cela, on pense aussi à une série, pourquoi pas un film. Vous connaissez aussi la voracité de certains studios, de certaines plateformes. Est-ce que vous souhaiteriez, vous, que ce soit adapté à l'écran ou est-ce que vous craignez une sorte de dénaturation ?
Non, je pense que... Enfin, d'abord, je n'ai jamais peur qu'un de mes textes soit adapté. Je pense qu'il faut une certaine dimension d'abandon lorsque le support change. Donc j'ai pas mal lu de textes qui sont passés au théâtre et j'ai toujours constaté que le travail des metteurs en scène et même le travail des comédiens eux-mêmes faisait qu'ils voyaient dans mes textes des choses que je n'avais pas forcément mises mais qui étaient assez riches et qu'on obtenait un résultat qui était intéressant.
Évidemment, vous n'avez pas souffert du résultat ?
Non, je n'ai pas souffert. J'ai même été surpris et souvent très agréablement surpris de ce qui était proposé comme traitement. Alors après, la question de l'adaptation en série, ça ne m'a pas échappé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on est dans des codes qui sont ceux que j'ai choisis, on voit bien que derrière, il y a une option cinématographique, en tout cas visuelle, extrêmement puissante. D'ailleurs, j'avais moi-même souvent, lorsque je commençais un chapitre, une idée de scène avec des situations qui étaient des situations de ce qu'on peut appeler l'univers cinématographique dans lequel je baigne moi-même, comme beaucoup de Français. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles le livre a connu un succès, c'est qu'il rentrait en écho avec cette habitude que nous avons de l'image. Et que d'ailleurs, il faut parfois contrebalancer par la littérature lorsque l'image est trop puissante. Mais j'avais des scènes qui, clairement, scènes dans un hangar, scènes d'avion, dans lesquelles on essayait de faire rentrer de l'imagerie littéraire pour contrebalancer justement l'imagerie cinématographique.
Hervé Le Tellier, une dernière question. Est-il vrai que l'on ne peut pas démissionner de l'Oulipo, l'ouvroir de littérature potentielle, lorsque l'on est membre, a fortiori lorsque l'on est président, sauf à se suicider devant huissier ?
C'est exact, ça ne s'est jamais produit.
Ça ne s'est jamais produit ?
Non, alors il y a deux choses à l'Oulipo qui sont intéressantes. On ne peut pas quitter l'Oulipo, comme vous l'avez expliqué fort justement, mais on ne peut pas non plus y rentrer en demandant à y rentrer.
On doit être coopté ?
Oui, il faut être coopté à l'unanimité. Et le fait de demander à y rentrer nous exclut d'office.
Mauvais signe.
Nous exclut d'office. Donc on est toujours choisi par des oulipiens qui disent « lui peut-être ». Et le jour où on vous appelle pour vous demander si vous voulez être oulipien, c'est que vous avez déjà été élu.
Une sorte d'oulipo-succion, quelque sorte.
Voilà.
Merci Hervé.